devrait en dire. Vous avez tellement entendu parler de cette parabole-là, de ce texte-là, que vous avez déjà votre idée pas mal faite sur « OK, c'est ça que ça veut dire, c'est ce que je devrais faire avec ». Et ce que je vous invite à faire, comme j'ai, à chaque fois que j'ai parlé de cette parabole-là, c'est vraiment une découverte que j'ai faite il y a quelques années qui a mené à, je crois, une compréhension un peu plus pointue de la compréhension de cette parabole-là, qui m'a amené à enseigner cette parabole-là de différentes manières, différentes fois, sous différentes formes. Et ce que je vous demanderais de faire, ou d'essayer de faire, parce que c'est pas facile ce que je vais demander là, essayez de l'écouter et de l'entendre pour la première fois. Essayez d'entendre cette parabole-là, essayez de me suivre dans le raisonnement que je vais vous apporter, mais surtout, essayez de saisir ça comme si vous n'aviez jamais entendu. Vous êtes là, reculé 2000 ans en arrière environ, puis imaginez-vous que vous n'avez jamais entendu cette histoire-là. Et on va essayer ensemble de faire un cheminement, puis comprendre un peu qu'est-ce que ça peut comprendre pour l'Église d'aujourd'hui et pour nous comme croyants individuellement. Alors, c'est la parabole du semeur. Non, je vous égare si je dis ça. La parabole du bon samaritain dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Et si ma voix est un peu tremblotante, c'est juste que j'ai encore le petit frisson de dehors qui n'est pas encore rattrapé. Alors, je suis pas un frileux de nature et ma femme serait vraiment surprise de m'entendre de dire une chose pareille. Mais j'ai encore le petit frisson de dehors, là. Alors, je sais pas pourquoi. Et je le sens dans ma voix. Donc, si vous entendez ça, c'est vraiment parce que j'ai un léger frisson encore qui, on dirait, veut pas s'échapper. Alors, chapitre 10 de Luc, les versets 25 à 37. On a l'introduction dans ce passage-là. Et avant d'arriver à la parabole elle-même. Et ça nous dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus lui reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et ils s'en allèrent, le laissant là à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Dans cette parabole, souvent on l'explique, je vous dirais, avec une explication interne de ce que la parabole dit elle-même. Mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'essayer de trouver pourquoi la parabole a été dite. Pourquoi Jésus a décidé, à ce moment-là, dans l'histoire, dans son cheminement de vie, passe par là et décide de raconter cette parabole-là, de cette manière-là, à ce docteur de la loi qui vient le questionner. Eh bien, il y a deux passages qui nous indiquent pourquoi cette parabole-là a été nommée, a été dite par Jésus. C'est d'abord au verset 25. Le verset 25 nous dit que le docteur de la loi vient voir Jésus. Pourquoi? Il veut l'éprouver, il veut le tester. Il veut voir si Jésus connaît ses affaires. Il veut savoir si Jésus, hein, qui devient de plus en plus populaire, qui est de plus en plus a une réputation auprès des gens, est en train de détourner la faveur populaire que les docteurs de la loi ont l'habitude d'avoir, l'espèce d'influence qu'ils avaient. Et là, le docteur de la loi vient, il veut éprouver, il veut tester Jésus. En fait, je pense qu'il veut le faire échouer. Je suis pas convaincu que ce docteur de la loi-là avait un bon sentiment à l'égard de Jésus, mais plutôt, il essayait, comme plusieurs ont essayé à travers, si on regarde la vie de Jésus, plusieurs ont essayé de le tester pour dire, OK, ça y est, on vient de le piéger, c'est terminé. On vient de défaire sa réputation, c'est terminé. Mais la première raison pourquoi Jésus va parler de cette manière-là à cet homme-là, c'est qu'il vient vers lui pour l'éprouver. Il veut le tester. Mais la vraie raison pourquoi la parabole a été dite, ça se trouve au verset 29. Parce que là, il va poser une question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le dit, il ramène aux Écritures. Regarde les Écritures, qu'est-ce que ça dit? Il dit, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et aussi ton prochain comme toi-même. Et le verset 29 nous dit quoi? Voulant se justifier. Voulant se justifier. Alors, le docteur de la loi se sent coincé par la réponse de Jésus. Il l'a ramené à sa propre loi. Hein? Il l'a remis. C'est lui-même qui s'est auto-piégé jusqu'à un certain point, mais Jésus le coince finalement. Puis là, il se sent un peu pris dans cette histoire-là. Puis il va dire, OK, c'est qui qu'est-ce que je peux trouver là pour m'en sortir? Il dit, voulant se justifier, voulant s'excuser. Hein, il voulait trouver une façon de dire, je peux pas faire ça. Alors là, il va dire, c'est qui mon prochain? Et là, il pense avoir coincé Jésus, ou en tout cas, il pense avoir trouvé une porte de sortie. C'était mal connaître Jésus. En fait, c'était pas connaître Jésus. Et là, Jésus va raconter la parabole, parce qu'il dit, voulant se justifier, pose « Qui est mon prochain? » Puis la réponse de Jésus lui répondit. Et là, il va faire la parabole. Il va émettre la parabole. Alors, la parabole doit répondre à la question « Qui est mon prochain pour ce docteur de la loi-là? » C'est ça le but même de la parabole. Avant même de dire le contenu de la parabole, la parabole devrait être capable de répondre à cette question-là « Qui est mon prochain pour ce docteur de la loi qui est venu piéger ou éprouver Jésus? » Et je dois admettre que pendant des années, cette parabole-là a été un vrai questionnement. Et vous allez le voir, je vais vous l'amener où est-ce que la question que j'ai pas de cas de répondre pendant des années à cette question-là, puis à un moment donné, c'est devenu clair par l'étude, mais par simplement à un moment donné, c'est devenu évident parce que j'ai lu le contexte. Et j'espère que vous allez pouvoir me suivre dans cette démarche-là. Mais notre réflexe en lisant la parabole, Jésus est en train de nous expliquer une histoire. Comment être, qui est notre prochain? C'est la personne qui a été attaquée par les voleurs. Notre premier réflexe, quand on écoute l'histoire au départ, on a l'impression que Jésus veut nous envoyer sur dire, OK, notre prochain, c'est celui qui est dans le besoin. Notre prochain, c'est celui qui est tombé sous les brigands. Et probablement que le docteur de la loi est en train de suivre ce raisonnement-là, parce que c'est une histoire qui semble pointer vers ce résultat-là. Mais Jésus avait une surprise, il nous réservait une surprise à la fin de cette parabole-là. Au verset 36, je vais le lire tel quel, la question de Jésus devient intrigante. Et c'est cette question-là, pendant des années, m'a posé un problème. Peut-être que j'étais le seul à avoir ce problème-là, mais entendre les multiples interprétations que j'ai eues de la parabole, je ne pense pas que je suis le seul à avoir eu un questionnement. Alors, au verset 36, il va dire, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Alors là, on élimine tout de suite que le prochain, c'est celui qui est à terre. Parce que le prochain, ça doit être le prochain de celui qui était par terre, blessé, à demi-mort. Alors, il faut répondre à la question, « Qui est le prochain de la personne qui était laissée pour compte? » Et pourquoi Jésus va poser cette question-là. Pourquoi Jésus va arriver à cette... parce que là, la réponse qui va avoir lieu va donner la réponse à la question, mais qui est le prochain de ce docteur de la loi? Alors, lequel des trois? Évidemment, le juif qui était, et vous savez sûrement déjà un peu cette dynamique-là, entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas un grand amour, il n'y avait pas beaucoup d'affection. En fait, il y avait beaucoup de haine entre ces deux peuples, ou je devrais dire demi-peuples, parce que les Juifs étaient comme des demi-frères un petit peu des Samaritains, les Samaritains étant des gens issus d'un si j'étais un juif de l'époque, j'aurais dit un croisement bâtard, donc des impurs. Et ils étaient vraiment leurs ennemis. Et là, je pourrais, j'ai étudié la question, ils ont vraiment tout fait pour ne pas s'aimer. Ils ont rajouté, ils ont mis de l'huile sur le feu constamment. Dans l'histoire entre ces deux peuples-là, il y a toujours eu des raisons d'alimenter les conflits. C'est des gens qui se détestent totalement. Un point tel qu'ils avaient de la misère à dire le mot. Et c'est drôle parce que la réponse du docteur de la loi, ça n'a pas été le Samaritain. Certains allaient jusqu'à dire qu'à l'époque, que si un juif, un docteur comme ça, disait le mot Samaritain, il devait cracher à terre parce qu'il devait s'en libérer, il devait s'en dégager de ça. Okay? C'était tellement malsain pour lui de considérer même de parler en termes des Samaritains. Alors, il a été obligé de dire celui qui a exercé la miséricorde. Il n'a même pas dit le Samaritain. Il a dit celui qui a exercé la miséricorde. Alors, il est un peu encore plus coincé. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le prochain dans le truc, le prochain qui doit aimer comme lui-même, selon ses propres réponses, c'est son ennemi juré. Alors, ça devient vraiment, vraiment embêtant pour lui. Alors, Jésus lui dit, va et fais de même. Donc, dans cette réponse-là, il y a une réponse double de la part de Jésus. Jésus répond à deux questions au lieu d'une dans celle-là. Dans un premier temps, il va répondre à la question « Qui est son prochain? » Alors, le prochain de ce docteur de la loi, c'est celui pour qui il a de la haine. Alors, celui qu'il déteste est son prochain. Et qu'est-ce qu'il doit faire envers son prochain? Il doit l'aimer comme lui-même. Et Jésus va lui-même dire « Va et fais de même. Va et exerce la miséricorde envers celui que tu détestes. » Alors là, ça devient mettre le standard très, très élevé. Le standard n'est plus un standard ordinaire, le standard est rendu très, très élevé. Non seulement tu dois aimer ton prochain, mais tu dois aimer ton prochain que tu détestes et celui que tu détestes. Alors, la question qu'on peut se poser pour devenir plus concret avec nous aujourd'hui, ça répondait à la question pour cet homme-là dans cette époque-là. Alors, pour arriver à quelque chose de concret pour l'Église aujourd'hui et pour les croyants de l'Église aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi il faudrait étendre notre amour jusqu'à nos ennemis? Pourquoi faudrait étendre notre amour jusqu'à pas seulement aux gens qu'on aime, pas seulement aux gens pour qui on est indifférent, pas seulement les gens pour qui on a de la pitié, parce qu'on pourrait se dire les gens qui sont dans le besoin, on peut aller vers, c'est plus facile peut-être d'être ému envers les gens qui sont les démunis de la société. Alors c'est facile de se créer une émotion de pitié envers ces gens-là. Mais non, Jésus va à un standard encore plus élevé. Il dit, va et aime ton ennemi. Va et exerce la miséricorde envers ton ennemi. Et là, la première raison qui m'est venue à la tête, pourquoi on devrait étendre notre amour, nous, aujourd'hui, jusqu'à nos ennemis, c'est-à-dire à la limite de ce qui est possible. Hein? En fait, c'est le plus loin de nous, c'est nos ennemis. Alors, pour se rendre à cette compréhension-là, c'est pour que notre amour ressemble à son amour. J'ai pensé à cette idée de dire, il veut qu'on aime nos ennemis parce qu'il veut qu'on aime comme lui aime, à la même manière que lui aime. Et comment on peut démontrer ça? Romains chapitre 5, verset 10, encore là, probablement que vous connaissez bien le passage. Romains chapitre 5, au verset 10. Dans le contexte de toute la justification, vous connaissez un peu le contexte, je ne vais pas faire l'étude de ce passage-là, mais Paul nous parle de l'état dans lequel, au moment où Dieu a manifesté le maximum de son amour pour nous. Alors, il dit dans Romains 5, 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, à ce point-là, il est en train de dire, Christ a manifesté le maximum de son amour envers nous, alors qu'on était ses ennemis. Alors, pourquoi on devrait, nous, attendre notre amour à nos ennemis, jusqu'à nos ennemis, ou à notre limite? Parce qu'on veut aimer comme lui nous a aimés. Parce qu'on veut aimer de la même manière que lui aime les gens autour de nous. Il y a une autre raison pour laquelle on peut penser qu'on doit étendre notre amour jusqu'à nos ennemis. C'est Jean chapitre 13, versets 34 et 35. On va trouver la réponse dans ce passage-là. Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Ça nous dit ceci. Et là, Jésus est sur le bord de quitter, en fait, pour la croix. Et il est en train d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient à ses disciples qui étaient avec lui. Et Jean 13, 34, 35 nous dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ici, il y a deux points à faire avec ce passage-là. D'abord, un amour qui ressemble au sien. Aimez-vous les uns les autres? Pas, ça finit pas là. Comme je vous ai aimé. Alors, Jésus nous invite à nous identifier à son amour dans ce sens-là. Mais encore plus que ça, il veut que les gens puissent nous identifier à cet amour-là. Il veut que les gens puissent reconnaître qui est notre maître. Merci. Jésus veut qu'on aime nos ennemis de telle sorte que notre amour ressemble à son amour, à un point où les gens vont voir notre maître en nous à travers notre amour. Alors, c'est pas seulement une question de faire comme lui, mais de s'identifier. Ils peuvent identifier le maître ou le Dieu ou le Père que nous avons dans les cieux qui nous aime d'une telle sorte que nous, on aime aussi de la même manière. Alors, cet amour-là peut identifier nos vies, nos façons de faire, à celles de notre maître, à notre Père qui est aux cieux. Maintenant, on arrive à la partie un peu plus, encore plus concrète. Pourquoi cet amour-là devrait s'étendre aux gens aussi qui sont dans le besoin? Parce que là, si on dit le plus loin qu'on peut aller, c'est d'aimer nos ennemis, alors pourquoi ça devrait passer par les œuvres? Pourquoi on devrait passer par les œuvres pour manifester cet amour-là? Pourquoi on devrait prendre notre énergie, notre temps, nos ressources, notre argent, puis le passer par les œuvres? On sait que les œuvres ne sauvent pas. Depuis la réforme, en fait, on savait ça bien avant, mais il y a eu une période un peu obscure où on a oublié cette idée-là. Mais les œuvres ne sauvent pas. Par contre, je ne sais pas si une voix veut me parler d'en haut quelque chose, mais peut-être qu'on veut m'interrompre, je ne sais pas. Pourquoi cet amour-là devrait se manifester à travers de nos œuvres? Pourquoi nos œuvres devraient être si importantes aujourd'hui? Quelque chose qu'on a peut-être oublié de façon générale dans nos églises évangéliques. On a oublié cet aspect-là, en tout cas, ça fait 26 ans que je suis chrétien et je vois que dans plusieurs milieux évangéliques, on a perdu cette passion-là pour les œuvres. Et pourquoi on devrait passer notre amour, canaliser notre amour pour les gens autour de nous qui sont dans la détresse, comme on a parlé au début, ou dans les besoins? Ils le sont tous. Hein? On l'a déjà identifié, ça. Ben, encore là, il y avait une multitude de textes que je pouvais choisir pour illustrer pourquoi les œuvres sont si importantes dans la vie de l'Église ou dans la vie des croyants d'aujourd'hui, pour manifester l'amour, le moyen par lequel l'amour devrait être manifesté. Alors, il y a Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10, ça a déjà été lu, on va quand même aller le voir. C'est intéressant, on va compléter peut-être le partage un petit peu qui a été fait. Il y a un aspect qui a été dit, c'est-à-dire que le salut ne vient pas par les œuvres, mais ce passage-là nous parle des œuvres tout de même, du rôle que les œuvres doivent jouer dans la vie du croyant ou dans la vie de l'Église. J'aime bien penser que ce passage-là ne s'adresse pas seulement d'un point de vue individuel. On prend souvent les Écritures sur un plan individuel et c'est très bien pour l'application. Mais les lettres aux églises sont des lettres adressées à une communauté, à un groupe de gens. Et si vous regardez la lettre aux Éphésiens, il n'y a pas de « je » et de « tu ». C'est « nous » et « vous ». Et Paul s'adresse à une communauté. Il s'adresse à un groupe de gens. Je crois bien, en tout cas, que dans l'esprit de Paul, il n'y a pas cette idée-là de christianisme individuel, mais un christianisme communautaire. C'est-à-dire un christianisme où c'est un ensemble de gens à qui s'est adressé ces paroles-là. Alors, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 10, nous dit le rôle que devraient jouer les œuvres dans la vie de l'Église ou dans la vie d'une communauté de croyants. Et je lis ceci. 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Premier point, Dieu a prévu pour nous, pour notre communauté, pour l'ensemble de nos églises, des croyants qui en font partie. Il a préparé des œuvres. C'est dans son plan. C'est dans son plan de manifester des œuvres à travers son Église, de manifester des pratiques de bienfaisance, si on peut dire. Mais j'ai un passage qui est encore plus clair. Lui, c'est parce qu'on le connaît beaucoup, on le cite beaucoup pour différentes raisons, pour entre autres témoigner du salut qui ne vient pas justement des œuvres. Mais l'autre passage qui m'est venu en tête, c'est un de mes passages préférés qui traite de l'amour de Jésus-Christ envers son peuple, dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Pendant que j'entends les pages tourner, je vais en profiter. Ça dit ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, et quoi? De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, enthousiaste, dévoué pour les bonnes œuvres. Pas seulement un peu, pas seulement, on va faire ça comme un à côté, zélé, enthousiasmé par l'idée de faire des œuvres, de prendre soin des gens. Alors voilà une deuxième raison pour laquelle on devrait manifester notre amour à travers les œuvres. C'est le plan de Dieu et il a choisi un peuple pour qui il voulait, que ce peuple-là, il le voulait dévouer, dédié aux bonnes œuvres. Pas pour leur salut, mais pour manifester sa présence sur terre. Dieu veut que les gens voient Dieu à travers son peuple. Dieu veut que les gens voient qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là va se manifester à quoi? Un amour incompréhensible. Un amour qui n'a aucun sens, en réalité. L'amour de nos ennemis, l'amour des gens qui nous rapportent rien, parce que c'est ça l'idée hein, ici, de faire des bonnes œuvres en général, c'est parce qu'on prend soin des gens qui ne peuvent pas nous le donner en retour. Alors ici, Dieu est en train de nous dire, considérez l'idée de faire des œuvres qui vont manifester un amour qui ressemble, le seul amour qui ressemble à ça partout dans l'univers, c'est l'amour que j'ai pour vous. Et c'est comme ça que vous allez laisser la trace que j'existe. La meilleure preuve que Dieu existe, c'est d'aimer comme personne d'autre aime sur cette terre. Et ceci passe par les œuvres, ceci passe par l'amour des ennemis, ceci passe par un amour désintéressé, j'aime bien le mot, merci. Alors, dans ce sens-là, l'amour que Dieu veut qu'on porte par tous ces moyens-là, c'est déjà prévu à l'avance, c'est déjà au programme, à nous d'embarquer dans ces œuvres-là. J'aime bien cette image-là de dire préparer d'avance pour que nous les pratiquions. C'est comme si le programme était là, étape par étape, devant nous, puis tout ce qu'on a à faire, c'est d'embarquer dedans. Alors, voilà les raisons pour lesquelles il est important de manifester notre amour, de l'étendre jusqu'à son maximum, le déployer jusqu'à son maximum, c'est-à-dire nos ennemis, les gens qui ne peuvent pas nous le rendre, un amour, comme on vient de le dire, désintéressé. Mais il y a une autre raison pour laquelle on peut faire ça aussi. Une autre raison qui peut paraître intéressée, mais en fait, cet amour-là est un amour aussi justifié. De vouloir les gens être sauvés, c'est aussi une excellente raison pour aimer les gens véritablement et de façon inconditionnelle. Et trop souvent dans le passé, on a opposé œuvre sociale et évangélisation. Et dernièrement, j'entendais, et la réponse que je viens, que je vais nommer dans quelques secondes, là, ça ne vient pas de moi. Je dois dire que la réponse comme telle, comme elle est phrasée là, ça ne vient pas de moi. Je l'ai entendu de quelqu'un, d'un autre pasteur, et ce pasteur-là l'avait entendu de quelqu'un d'autre. Alors, on est en double citation ici, mais je veux juste le dire. Ce n'est pas ma réponse à moi, mais je vais vous dire que je l'ai adoptée. Alors, pourquoi c'est une occasion d'évangéliser? Bien, c'est simple. On va revenir à la phrase du docteur de la loi dans cette idée-là aussi. Mais à un moment donné, quand vous allez faire ces œuvres-là, quand vous allez étendre cet amour-là, quand vous allez déployer cet amour-là, il y a des gens qui vont vous poser la question, pourquoi tu te démènes autant pour ces choses-là? Pourquoi tu te donnes autant à ces gens-là? Pourquoi tu nous aimes autant? Ou pourquoi tu te déploies ou tu déploies tant d'énergie pour ces gens-là? Bien, c'est simple. La réponse est simple. La réponse, c'est dire, mais sais-tu quoi? Moi, j'aime Dieu. Et Dieu me demande, en résumé là, de tout ce qu'il me demande, là, il me demande deux choses. Il me demande de l'aimer de tout son cœur. Il me demande d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces et de toute ma pensée. Et la deuxième chose qu'il me demande, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors voilà pourquoi je mets en pratique et je mets autant d'énergie à déployer de l'amour pour ces gens-là qui ne peuvent pas me le rendre en retour. Parce qu'il me demande de l'aimer complètement et de l'aimer complètement exige que j'aime aussi mon prochain. Voilà pourquoi je dépense autant d'énergie à aimer les gens. Et là, vous aurez l'occasion de réconcilier les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, le peuple qu'il a voulu zéler pour les bonnes œuvres et la mission pour laquelle on a été créé, c'est-à-dire recréé en Jésus-Christ, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples. Alors, je vais prier et ensuite, on pourra passer quand même quelques minutes s'il y a des questions ou commentaires. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as daigné nous aimer. Tu as daigné faire le premier pas, prendre le risque d'être rejeté, prendre le risque de l'humanité, prendre le risque de passer à côté d'une éternité sans faille, c'est-à-dire que le confort dans lequel tu étais, dans la gloire de ton Père, tu as préféré voir la joie du salut d'une multitude que de rester dans ce confort-là qui était probablement la meilleure chose, je ne veux pas dire sentiment, mais le meilleur état de fait pour toi. Tu as osé sortir de cette zone de confort pour venir nous aimer, nous qui étions ennemis et rebelles, qui ne voulions rien savoir de toi. Seigneur, tu as percé nos cœurs de pierre, tu as inséré ton message de l'Évangile pour le faire éclater, et tu as fait de nous de tes enfants. Et ce, pour l'éternité, on veut t'en remercier. Amen.